Un salon féminin à Nouville à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pacific Fair propose la 19e édition du Salon des femmes. Reportage dès le début de ce journal. La préparation des élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Ce soir, 18h, date limite du dépôt des listes de candidatures pour Bellep, Farino, Moindou et Saraméa, les 4 communes de moins de 1000 habitants. Les bombardements sur l'Iran, mais aussi au Liban, sur les bastions du Hezbollah. Une nouvelle journée de guerre au Moyen-Orient. Donald Trump exige une capitulation sans condition de l'Iran. De nombreux Français toujours bloqués dans la région. 750 sont déjà rentrés par des vols de rapatriement. 2000 via des vols commerciaux. Paris va reprendre les vols de rapatriement depuis les Émirats Arabes Unis. Le sport, le football et le Paris Saint-Germain qui coincent lors de la 25e journée du championnat de France de Ligue 1. Le PSG battu 3-1 au Parc des Princes par l'AS Monaco. Et puis le sport en Calédonie, c'est parti pour Tactical Race, premier événement du genre organisé au Stade Pentecôte et à la salle Omnisport de Lonsvata. On vous explique tout à la fin de ce journal. Bonjour, très bon week-end, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, le Salon de la Femme qui se déroule tout le week-end à Nouville. Il a ouvert ses portes hier, c'est le premier grand salon de l'année 2026 à Nouméa. Et il rencontre un grand succès de très nombreux visiteurs et surtout des visiteuses qui sont au rendez-vous ce samedi encore, Michael Juneski.
Oui, très belle affluence. En effet, depuis le coup d'envoi ce vendredi, les stands ont pris leur quartier dans l'ancien site de référence des salons à Nouméa, à la salle d'exposition de Nouville. Avec une très large variété de produits et de services proposés, des exposantes qui ont à cœur de séduire leur clientèle.
Nous sommes la boutique Adam, donc on a deux boutiques sur le territoire, une à Magenta, une à Lonsvata, et à l'occasion du Salon des Femmes, on s'est délocalisé sur le salon, donc on a notre petit bar à parfum, on fait tester nos fragrances, bar à parfum avec un petit style rouleau de glacier, ça fait venir, il fait chaud, donc ça attire. Également des brumes parfumées avec cette chaleur. Ça fait toujours du bien.
Je suis Jordan et je suis gérante de la distillerie de Boulou Paris. Nous, on est dans l'univers des plantes du bien-être. Donc, en général, on prend le temps de discuter avec les clients des différents petits maux du quotidien qu'ils peuvent avoir, comment on peut les soulager, etc. Donc oui, c'est un temps d'échange de qualité, je dirais. On essaye avec des petits gestes du quotidien et en valorisant notre belle nature d'aider les gens à être mieux dans leur peau et dans la vie.
Moi, je m'appelle Tommy et je suis la présidente cofondatrice de l'association Makatea. Nous sommes une association sportive bien-être de la personne. Si on aime danser et qu'on aime le sport, et ben voilà, on relie les deux. Et en plus, la Zumba, ben c'est un moyen de se décompresser, de se défouler après une très longue journée de travail. On est toujours contente d'être sollicité chaque année, en fait, nous sollicite. Et nous, on est toujours contente d'être là et on prend plaisir, en fait, à nous entraîner avant de venir nous produire sur la scène du Salon de la Femme. Et puis, on espère continuer comme ça chaque année. C'est toujours un pur bonheur pour nous parce qu'on aime bien bouger aussi. Le sport, c'est la santé, comme on dit.
Des stands pour permettre au public de ne pas repartir les mains vides. Mais le Salon des Femmes, c'est bien plus que cela. Bruno Aurelio, l'organisateur pour Pacific Fair.
L'idée, c'était d'organiser un Salon des Femmes qui parle à toutes les femmes du pays, tout âge confondu, toute communauté confondue. Et on a essayé également d'apporter des ateliers, des conférences par le biais de la province sud et ses associations pour apporter également une petite partie sociale. C'est-à-dire, on va parler des femmes, de la place des femmes dans la société, des droits des femmes, de la sexualité des femmes, les femmes et le travail, les violences conjugales, malheureusement. Donc, ce sont autant de sujets de société qu'on ne traitait pas forcément avant. Et maintenant, on arrive à avoir un salon complet, avec vraiment une partie scénique plus légère, bien évidemment, avec des spectacles, des danses, des ateliers, une partie artisanat, une partie de commerçants. Donc il y en a 80 stands. Et donc c'est vraiment la fête ici pendant 3 jours. C'est le premier grand salon. On ouvre un petit peu la saison des salons, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a autant de monde depuis hier.
Le Salon des Femmes qui continue cet après-midi et demain encore de 9h à 17h à Nouville.
Comme chaque année, les institutions se mobilisent également pour cette journée internationale du droit des femmes. La province sud présente sur le salon des femmes doit diffuser l'édition 2026 du guide du droit des femmes et de la famille. La province sud qui met aussi à disposition des partenaires un fonds d'exposition consacré aux droits des femmes. À Dimbéa, les femmes seront fêtées demain. Ce sera au Parc Fayard. Une fresque, des animations, des concerts et des ateliers auront lieu pendant le marché et le vide grenier. Et puis à Nouméa, 2 rendez-vous à vous donner demain à 16h. Les matchs d'impro au parc urbain de Sainte-Marie sur des thèmes liés aux femmes. Et puis un concert à partir de 17h30 au parc de loisirs de Lonsvata avec notamment Ticia et Esther Wamenjoff. Une mission de rédaction de la future loi organique sur la Nouvelle-Calédonie. C'est une information de nos confrères d'Outre-mer 360. Cette mission sera conduite par Patrick Gossy, qui est actuellement secrétaire général des Hauts-de-Seine, mais qui a aussi été secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie de 2013 à 2015. Il dirigera un comité rédactionnel composé de membres de la direction juridique du ministère des Outre-mer, qui devront travailler sur la rédaction de la future loi organique. L'objectif est de préciser les grands sujets du projet de réforme constitutionnelle issu des accords de Bougival et Élysée-Oudinot, notamment ceux de la citoyenneté et du partage de compétences. Cette mission intervient alors que le projet de loi constitutionnelle a été adopté par le Sénat le 25 février. Il a été transmis, vous le savez, à l'Assemblée nationale, qu'il examinera à partir du 31 mars. Mais l'on sait que l'adoption du texte par les députés est encore très incertaine en raison des réserves des socialistes et du Rassemblement national. Venons-en à la préparation des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Rappelons que c'est ce soir à 18h la date limite du dépôt des listes de candidature pour les 4 communes du territoire de moins de 1000 habitants, Bellep, Farineau, Moindou et Saraméa. Des listes qui devraient être rendues publiques dès demain. Des listes qui viendront s'ajouter aux 123 listes déjà déposées dans les 29 autres communes calédoniennes qui comptent plus de 1000 habitants. Puisque l'on parle des municipales, continuons notre tour de ces municipales 2026 avec la présentation des listes et des différents programmes. Nous nous intéressons aujourd'hui à la commune de Poum, Michael Juneski.
Située dans l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie, Poum compte 1597 habitants selon le dernier recensement de 2025. Un chiffre en augmentation d'environ 11,3% depuis 2019 et ce malgré la liquidation de la Sonarep en 2023 qui a mis un coup d'arrêt à l'économie de la commune. Trois listes sont présentes pour ces municipales 2026 avec des noms bien connus. Marc Tidjine retente sa chance avec la liste S'unir pour demain. Selon lui, la commune, déjà tournée vers l'économie de la mer, doit suivre ce cheminement et trouver une solution durable pour la distribution d'eau.
Ici, nous avons toujours les mêmes problématiques dans le nord. Hein. Nous avons l'eau. Alors, on voit la quantité d'eau qui tombe actuellement. On se demande comment on pourrait la retenir, cette eau de pluie-là. Il y a le gros souci de l'extrême nord. Nous avons des sols arides avec très peu de nappes phréatiques, avec des criques qui s'assèchent en période d'été. Le gros souci, je pense que c'est aussi l'orientation à émettre les autres listes. Le deuxième point, c'est surtout le souci de l'après-nickel. Comme vous savez, hein, si vous êtes venu dans notre secteur de l'extrême nord, vous apercevez que nous avons un gros potentiel touristique. Comment on peut le développer économiquement pour que l'après-nickel, on puisse donner à nos gens cette capacité de rebondir lorsque la mine sera exploitée dans sa totalité. C'est ça l'enjeu. Il y a le partenaire demain qui va vouloir peut-être relancer la mine. Et l'enjeu, c'est d'être capable de poser ces préalables pour que, dans l'intérêt des générations futures.
De son côté, Gilles Arnal tire la liste Unipoum et promet plus de transparence s'il accède à la mairie.
Dans notre profession de foi, on met qu'on veut appartenir à un même pays, d'impliquer davantage avec nos différences dans les prises de décision, créer une dynamique constructive, favoriser la participation citoyenne à la gestion, instaurer une gestion transparente et redonner un nouveau souffle à l'institution, une gestion rigoureuse et plus de justice sociale et solidaire. C'est dans cette optique-là et dans ces valeurs-là que je vais défendre. Moi, de ma personnalité, je veux qu'on instaure et qu'on applique ces valeurs. Donc je vous dis, je me présente, c'est parce que je suis chef d'agence à l'OPT, à Poum. Les gens me connaissent bien, de ma personnalité, et à l'OPT, nos valeurs, c'est de servir la population équitablement. Donc c'est pour ça que là, étant à la mairie, ben je veux servir équitablement la population, mes administrés.
Elle est maire depuis 2008 et brigue un quatrième mandat. Henriette Tidjine-Mahé accompagne la liste Union citoyenne. Avec ses colistiers, elle souhaite poursuivre les travaux entamés depuis qu'elle est à la tête de la municipalité.
On est l'avant-dernière commune à être née sur le territoire. On a focalisé sur nos premières mandatures le développement des infrastructures premières pour le bien-être des populations, notamment l'eau et l'électricité. On commence à réfléchir sur l'aménagement du territoire, d'autant plus qu'on à cette dernière mandature, on a sorti l'atlas de la biodiversité et avec les zones à protéger sur la commune et comment aller protéger ces zones-là à travers un plan d'aménagement, mais aussi retourner à l'essentiel parce que à la dernière mandature, on a été happé par la montée en puissance de l'activité minière. On a mis tous les moyens pour que nos jeunes puissent répondre aux besoins de la société minière à l'époque. Là, depuis la suspension de l'activité, l'idée, c'est de revenir à l'essentiel et accompagner nos jeunes dans les nouvelles activités qu'ils ont actuellement, notamment la pêche, puisque la commune de Paume est essentiellement tournée vers la mer, et développer l'économie bleue de cette commune et comment les accompagner en restant dans nos compétences, en mettant des structures pour qu'ils puissent en vivre, des coopératives pour leur fournir de la glace ou des endroits où pourront stocker leur poisson entre des campagnes de pêche et des choses comme ça.
Et vous pouvez retrouver les listes complètes pour la commune de Paume en vue de ces municipales 2026 sur notre site internet www.rrb.nc.
Merci Mickaël, il est midi et 13 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal dans un instant, l'actualité dans le monde.
Femmes de talent. Du 6 au 8 mars, rendez-vous à la salle des expositions de Nouville pour la 19e édition du Salon des Femmes. Plus de 70 exposants, des animations gratuites tous les week-ends et des temps forts dédiés aux droits des femmes en Nouvelle-Calédonie avec les associations locales et la province sud. Salon des Femmes du 6 au 8 mars à Nouville. Programme complet sur Facebook Pacific Fair NC.
Oh, mais ils ont vraiment décidé de gâcher notre barbecue, hein ? Ils se sont donné le mot ou quoi ?
Relax, c'est justement pour ça que j'ai pensé à Vape, l'anti-moustique qui marche vraiment.
Ah, le silence, c'est magique. Les tortillons aux prises anti-moustique Vape, disponibles dès maintenant en magasin.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Il est midi 13, Radio Rythme Bleu, la suite de votre journal avec Lionel Sabour.
Et le 7e jour de guerre au Moyen-Orient et Donald Trump l'affirme, pas question de cesser le feu en Iran avant une capitulation totale du régime des Mollahs. Les opérations militaires américano-israéliennes se poursuivent donc. Des centaines de cibles ont encore été visées par les États-Unis et l'État hébreu ces dernières heures sur le sol iranien. Mais pas seulement, Frédéric Simon pour Europe 1.
Parmi elles, le bunker à Téhéran de l'ancien guide suprême du régime, Ali Khamenei, tué dès le premier jour du conflit, il y a près d'une semaine. Selon l'armée israélienne, l'installation souterraine continuait d'être utilisée par les dirigeants de la République islamique. Ont été ciblés également d'autres sites liés au pouvoir iranien, ainsi que des usines de fabrication de missiles. Depuis le début de l'offensive, les aviations israéliennes et américaines seraient parvenues à détruire plus de 60% des rampes de lancement servant au tir de ces missiles de longue portée. En conséquence, on constate une diminution du nombre de projectiles tirés vers Israël. Les sirènes avertissant les Israéliens de l'approche des missiles ont retenti encore à plusieurs reprises aujourd'hui, mais à un rythme moins soutenu et chaque salve contient moins de missiles qu'auparavant, ce qui facilite la tâche de la défense anti-aérienne. L'état-major israélien semble s'inquiéter davantage des capacités du Hezbollah au Liban, dont les missiles peuvent atteindre rapidement la plus grande part du territoire de l'État hébreu. De fait, l'armée israélienne maintient la pression sur la milice pro-iranienne. Elle a ordonné hier l'évacuation du quartier de la Daïe, c'est le bastion du Hezbollah au sud de Beyrouth, avant d'y mener des frappes aériennes, notamment sur un immeuble de 10 étages qui abritait, selon Saan, un centre de commandement du Hezbollah. Au sol, les troupes israéliennes élargissent la zone tampon qu'elles ont investie au sud Liban, avant peut-être de lancer une opération terrestre d'envergure. La milice pro-iranienne poursuit quant à elle ses tirs de roquettes et ses lancers de drones, tout à la fois sur les localités du nord d'Israël et sur les unités de ça a déployé le long de la frontière. 8 soldats israéliens ont d'ailleurs été blessés, dont 5 grièvement.
Frédéric Simon, le correspondant permanent d'Europe 1 en Israël. Frédéric Simon qui le disait à l'instant, la riposte iranienne faiblit, mais elle continue de prendre plusieurs formes. L'Azerbaïdjan assure avoir déjoué une série d'attaques préparées par les gardiens de la révolution sur son sol. Par ailleurs, ce matin, une explosion a été entendue dans un hôtel d'Erbil, au Kurdistan irakien, peu après une mise en garde des États-Unis contre des risque d'attentats visant des établissements qui accueillent des étrangers dans cette région. Les Kurdes, des combattants soutenus par Washington depuis des années contre Daesh. Désormais, les Américains pourraient être tentés d'engager cette minorité contre les troupes du régime iranien. Une instrumentalisation de la mosaïque ethnique pour faire tomber le pouvoir central sur le modèle de la guerre d'Afghanistan en 2001. Stratégie risquée, selon le politologue Michel Fayad.
J'ai peur que ça entraîne une guerre civile. Parce que ce qui a été dit dans la presse américaine, c'est qu'il faudrait que les Kurdes, ceux d'Irak et ceux d'Iran, rentrent dans le nord de l'Iran, y compris dans la ville de Tabriz, qui est la capitale de l'Azerbaïdjan iranien. Et si ça arrive, ils vont se confronter, ils vont se battre. Et les Azéris risquent de faire appel aux Turcs. Parce que les Azéris, en fait, en tout cas Aliyev, le président d'Azerbaïdjan indépendant, et Erdogan, disent qu'ils sont deux États, mais une seule nation. Donc si jamais les Azéris d'Iran disent aux Turcs « Venez nous sauver des Kurdes », les Turcs ne vont pas se faire supplier. Ben oui, quoi. Ils vont rentrer tout de suite.
Michel Fayad, invité ce matin d'Europe 1 Week-end. Alors vous le savez, depuis 48 heures maintenant, un autre front de cette guerre au Moyen-Orient s'est ouvert, au Liban, après une attaque du Hezbollah contre Israël en solidarité avec l'Iran. Depuis, l'armée israélienne bombarde sans relâche les bastions de la milice chiite. Le chef d'état-major israélien promet, et je cite, de ne jamais renoncer au désarmement du groupe terroriste. Fin de citation. Les combats font rage au Liban, en dépit des appels au cessez-le-feu lancés notamment par Emmanuel Macron, le président de la République, particulièrement vigilant quant à la situation dans le pays du Cèdre, dont les liens avec la France remontent à plusieurs décennies. Alexandre Chevaux pour Europe 1.
D'une part parce qu'Emmanuel Macron entend perpétuer les liens d'amitié historiques entre Paris et Beyrouth, raison pour laquelle il a annoncé hier l'envoi d'une aide humanitaire dans la capitale libanaise. Mais d'autre part, parce que la France compte 800 soldats engagés dans la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. En demandant à Benjamin Netanyahou de renoncer à toute offensive terrestre, le chef de l'État cherche donc à limiter tout risque de perte française au Liban, ce qui ferait prendre au conflit dans la région une toute autre tournure. Paris cherche donc en priorité à appuyer les forces armées libanaises, chargées de prendre le contrôle des positions tenues par le Hezbollah. Des véhicules de transport blindés seront notamment livrés par Paris, en plus d'un soutien opérationnel et logistique, annonce Emmanuel Macron. Reste que cet appel à un cessez-le-feu de la part du président français n'a pas été franchement entendu, puisque Tsahal confirme mener une nouvelle vague de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth.
Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1. Et c'est justement pour assurer son soutien à ses alliés dans la région que l'armée française a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale. Le navire a franchi le détroit de Gibraltar il y a quelques heures. Autre problématique, à la suite du début de cette guerre au Moyen-Orient, à plusieurs centaines de nos compatriotes sont bloqués dans la région. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, s'est dit déterminé à poursuivre les opérations de rapatriement. Au moins 2000 personnes sont parvenues à regagner l'Hexagone par leurs propres moyens ou avec l'aide du gouvernement depuis la semaine dernière. Mais les vols sont très difficiles à assurer dans des espaces aériens saturés de drones et de missiles. Certains Français présents notamment en Israël, contraints de vivre au rythme des sirènes d'alerte, envisagent de passer par l'Égypte pour fuir, malgré la dangerosité des routes. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Isabelle est arrivée jeudi dernier en Israël pour préparer le mariage de son fils deux jours avant le début de la guerre.
D'un seul coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé, il n'y a plus rien. C'était un peu impressionnant quand même. Hein. La première sonnerie, la première alarme était à 7h du matin, un samedi matin. Je vous assure que ça vous prend au trip. Parce qu'à Paris, on n'a pas ça.
Son vol, comme des centaines d'autres, a été annulé. Depuis, c'est l'incertitude. Pour l'instant, la seule solution, c'est de rejoindre la Jordanie ou l'Égypte par voie terrestre avant de prendre l'avion. Possible, oui, mais compliqué.
C'est un péril pour nous, l'Égypte. On est à Netanya, il faut savoir que c'est dans le nord, on est à 5-6 heures de l'Égypte. Bon, puis avec ce qui se passe, on doit traverser un désert, je pense qu'on ne se sent pas prêt à ça, parce que ça pète beaucoup quand même. Hein.
La menace des missiles, des drones tirés par l'Iran et ses alliés sur Israël, c'est aussi ce que redoute Virginie sur la route vers Eilat et le poste frontière de Tabar.
Je ne suis pas forcément très rassurée, parce que le long de la route, il n'y a pas de miklat pour s'abriter. L'abri, en fait. Dans le désert, il n'y a pas d'abri, donc c'est les mains sur la tête et sortir de la voiture.
Alors elle espère une réouverture du ciel et un départ en avion depuis Tel Aviv. La compagnie El Al a rouvert aujourd'hui ses réservations, mais aucun vol n'est prévu avant la fin de semaine prochaine.
Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 au Moyen-Orient. Il est midi et 21 minutes. Nous allons marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. Toute l'actualité sportive.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Élection municipale à Nouméa. Information pratique.
Le scrutin se tiendra le dimanche 15 mars de 8h à 18h.
Les bureaux de vote ont été regroupés et répartis dans 8 lieux de vote à Nouméa. L'hôtel de ville, la salle de sport Wawanabou à Lansvata, la salle Jean Noyant à Lansvata, le collège Jean Lec à Magenta, le collège François Oliveau aux Portes de Fer, le groupe scolaire Marie Courteau Henriette Gervolino au 6e kilomètre, le centre culturel Kowekara, le groupe scolaire Céline Tessandier de Lobarède à la Vallée du Tir.
Pour connaître votre lieu de vote, contactez le 27 31 15. Consultez le site internet www.nouméa.nc ou rendez-vous directement à l'hôtel de ville. En cas de second tour, les mêmes lieux de vote seront conservés.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducose, 27 74 20 ou sur Facebook.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
Il est midi 22 sur RRB, l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
Et si nous commencions avec du football et la 25e journée du championnat de France de Ligue 1 qui a débuté par la défaite du Paris Saint-Germain. Les Parisiens sont inclinés devant l'AS Monaco, Michael Gineski.
Oui, défaite 3-1 en match d'ouverture. Les Monégasques ont fait la course en tête du début à la fin et Paris peut s'en mordre les doigts. Un revers avant de retrouver Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est un coup dur, comme l'a titré le quotidien L'Équipe. Le blues avant Chelsea. Les Monégasques qui ont pris leur revanche après avoir été éliminés par ce même PSG lors des barrages de la Champions League. Les réalisations du jour sont signées Akliouj, Golovin et Bologun pour un seul but parisien signé Barcola à la 71e minute de jeu. C'est une gifle et surtout, en dehors de la Ligue des Champions, les enjeux restent importants pour le champion de France en titre qui peut voir une nouvelle fois l'écart se réduire ce week-end avec son premier poursuivant au championnat, Lens. Paris ne compte provisoirement que 4 points d'avance sur le RC Lens. Et les Lensois qui feront face lundi au dernier du classement, Metz. Du côté de la Principauté, les Monégasques réussissent leur mission remontada. Désormais revenu à la 5e place de la Ligue 1. Après une mauvaise passe, Monaco reste sur 4 victoires d'affilée, dont 2 de référence contre les 2 premiers du classement. La suite des rencontres dès demain matin, Nantes fera face à Angers, Auxerre accueillera Strasbourg et Toulouse sera opposé à l'Olympique de Marseille.
Performance, engagement, dépassement de soi, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et place au week-end à la 4e journée du 6 Nations et le 15 de France qui est attendu. Toujours sur la voie d'un grand chelem avant d'affronter l'Écosse, Michael.
Et oui, les Bleus restent invaincus dans le tournoi. Ils sont surtout en position d'être mathématiquement sacrés en cas de victoire bonifiée ce week-end. Ils seront sur le terrain des Écossais, mais le capitaine tricolore Antoine Dupont préfère tempérer. Pas question de parler de grand chelem ni de victoire trop vite.
L'objectif, c'est déjà de gagner le match. On sait combien les déplacements ici sont difficiles. On n'a pas besoin de parler de la qualité de l'équipe d'Écosse, encore plus depuis le début de ce tournoi. Donc notre principal focus, il est là pour le moment, on aura le temps de voir la suite.
Les Calédoniens Rodrigue Nettier et Peato Mauvaka seront aussi dans le groupe. La rencontre sera à suivre à partir d'1h10 du matin la nuit prochaine pour nous. Un peu plus tard, à 3h40, l'Italie affrontera l'Angleterre. L'Angleterre qui sera le dernier adversaire des Bleus dans une semaine. L'Irlande, de son côté, s'est imposée aujourd'hui face au Pays de Galles, 27 à 17. Et puis, notez que les Bleuets aussi sont sur la voie d'un grand chelem. Le 15 de France des moins de 20 ans a pour sa part battu l'Écosse 45 à 26 et peut donc aussi viser la victoire finale.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Et si nous prenions un peu le frais avec les sports d'hiver et tout d'abord du biathlon et ce nouveau titre pour le français Éric Perrault, il a remporté le petit globe de cristal de l'individuel lors de la manche de la Coupe du Monde disputée en Finlande.
Quelques semaines après avoir brillé au JO de Milan-Cortina, c'est lors de l'étape de Kuntjalinti que le tricolore a réalisé une nouvelle prouesse, impériale au tir, rapide sur les skis, notamment un 20 sur 20 au tir. Il a devancé les Norvégiens Sturla Holm Lygred et Velle Stalin Christiansen. Éric Perrault est également en tête du classement général de la saison. Oui, pardon pour la prononciation norvégienne, si nos amis norvégiens nous écoutent. En tout cas, Éric Perrault est, lui, pour le moment, sur la voie du gros globe de cristal à 3 manches de la fin de la compétition. Et puis, les sports d'hiver, toujours, avec cette fois-ci la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques qui se déroulait ce matin pour lancer officiellement l'événement. À noter que la Biélorussie, tout comme la Russie, était présente pour cette cérémonie, malgré les critiques de nombreux pays. Sept nations ont d'ailleurs boycotté la cérémonie, parmi lesquelles l'Ukraine.
Voilà, voilà, j'avais eu du mal ce matin avec les Norvégiens et les Suédois. Pas plus simple ce midi. Allez, on passe au sport mécanique avec une nouvelle saison de Formule 1 qui débute.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Le Grand Prix de Melbourne, ce sera la première manche du championnat du monde et les choses sérieuses qui débutent dès cet après-midi, Michael.
Et oui, le Grand Prix d'Australie, théâtre de ce début de nouvelle saison. On a déjà eu droit à des essais libres qui ont livré leur lot de sensations. Mercedes et McLaren ont confirmé tout le potentiel de leur moteur, meilleur chrono lors de la deuxième séance signée Oscar Piastri devant les flèches d'argent d'André Antonelli et George Russell. L'ancienne star de Mercedes, Lewis Hamilton, désormais chez Ferrari, s'est classé 4 suivi de son coéquipier Charles Leclerc. Max Verstappen sur Red Bull est relégué en 6e position. Côté français, Isaac Hadjar, chez Red Bull également désormais, a terminé avec le 9e chrono de référence, entrée en matière compliquée pour le pilote tricolore.
C'était vraiment compliqué, j'étais un peu perdu, mais aussi on a fait beaucoup de changements sur la voiture, donc bon, on sait pourquoi ça n'a pas marché, donc c'est plus dur pour tout le monde.
Et toujours du côté des pilotes français, Esteban Ocon au volant de Haas a réalisé le 10e temps de référence, Pierre Gasly sur Alpine s'est classé 16e. Les qualifications, c'est dès 16h cet après-midi, le Grand Prix d'Australie. Première manche du championnat du monde 2026. Ce sera demain à partir de 15h pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
L'actualité sportive en Calédonie avec un rendez-vous inédit ce samedi, la Tactical Race.
C'est le premier événement du genre, en effet organisé au Stade Pentecôte et dans la salle omnisport de Lansvata. Le principe est original, il s'agit d'un enchaînement de 2 tours de stade, puis d'exercices en salle de type fitness à réaliser. Donc près de 250 participants sont inscrits sur ces 2 journées. À l'heure de la découverte, ils sont ravis.
Bah, c'est super cool que ce soit organisé en Calédonie. Du coup, bah, on en profite pour pouvoir le faire. En plus, on a de la chance, il pleut pas aujourd'hui. Bon, il fait un peu chaud quand même. Mais ça va le faire. En tout cas, c'est vraiment cool d'avoir organisé ça.
C'est un vrai plaisir d'y participer. En plus, j'ai appris il y a 2 jours que c'était la première. J'avais pas fait attention. Et c'est un vrai plaisir de participer à ce genre d'événement ici. Voilà, ça regroupe un peu le running, le crossfit. Tout le monde est réuni et c'est un grand plaisir.
Vu que c'est une première édition, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Donc, c'est le moment de tester.
Et de pousser ses limites, surtout aussi, connaître un peu plus son corps. Hein. Ça se trouve, ça peut nous plaire pour les futurs sports. Hein. Voilà, quoi.
Moi, je participe en tant qu'amateur, donc c'est aussi pour me challenger et montrer un peu ce que je veux par rapport au reste de la Calédonie. Donc, c'est intéressant.
C'est quoi qui fait le plus peur? C'est les tours du stade? C'est les exercices à la taille? C'est quoi?
Bon, en fait, c'est qu'à un moment donné, on se met trop dans le rouge et qu'on n'arrive pas à repartir. C'est ça qui fait peur, en fait. C'est d'aller vouloir chercher un chrono jusqu'à se mettre mal et en fait c'est ce qu'il faut pas faire quoi. Donc c'est là qu'il faut gérer le mieux quoi.
Et le vainqueur sera donc celui qui réalisera le meilleur chrono à l'issue de l'ensemble des passages. Ça continue tout le week-end.
Un petit coup d'œil, Mickaël, au reste de l'actualité sportive de ce samedi.
Et il y a du football avec la reprise de la Super League, le championnat élite. L'AS Mondor fera face à Horizon Patho dès 15h au stade Nouma Delhaye cet après-midi. Toujours à Nouma Delhaye. Ensuite, l'AS Gaïcha sera opposé au CA Saint-Louis demain à 15h30. Il y aura un derby de l'IFU. Ça se jouera tout de même à Nouméa. Ce sera entre l'AS Lossi et le SC Negeo. Rugby également avec un match amical, le 15 du Pacifique qui affrontera au stade Roki Vahitanaki de Dimbéa la sélection calédonienne à partir de 17h. Toujours à Dimbéa, place cet après-midi au meeting de Dimbéa Natation et en cyclisme au Grand Prix de la ville de Dimbéa. Le départ sera donné depuis le parc Fayard à 14h.
Merci Mickaël, il est midi et demi, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 13h. Très bon week-end, bel après-midi, à tout à l'heure.